nzamba
nzambira samirana
Nous sommes le vendredi 3 septembre 2021. Vous écoutez la radio Inzamba à Gatekakawe. C'est le moment du journal en français, dont voici d'abord la charpente. Une jeune fille est en garde à vue dans les cachots du commissariat provincial de Bururi. Les raisons de sa détention ne sont pas encore connues. Sa famille s'inquiète. C'est un manque criant de mazout dans la province de Gitega. Conséquence, les prix des transports sont passés du simple au double. Et puis, ça sent l'odeur de la corruption dans l'attribution des points aux élèves du lycée communal de Karuninya à Kayanza. Une nouvelle délibération vient de se faire après des soupçons de pots de vin donnés à certains enseignants. Voilà pour l'essentiel de ce journal qui vous sera présenté par moi-même, Valérie Mucho. Madame, Monsieur, soyez tous les bienvenus.
Suivez les émissions de la radio Inzamba en direct sur le www.inzamba.org.
Commençons ce journal par cette jeune fille qui est en garde à vue dans les cachots du commissariat provincial de Bururi depuis bientôt 2 semaines. La famille fait savoir que la jeune fille ne s'est pas encore présentée devant l'officier de police judiciaire jusqu'ici. Elle s'inquiète pour sa sécurité. Plus de détails de cette affaire avec Blaise Nijimbele.
La fille qui va faire bientôt 2 semaines en garde à vue sans avoir été déjà auditionnée par un officier de police judiciaire s'appelle Yesman Irambona. Elle a été arrêtée le dimanche 22 août à Mawa, dans la commune Gansolo de la province Gitega. Des sources de la radio Inzamba font savoir que la fille était sur son lieu de travail. Elle œuvrait sur la route en cours de construction Taba Mawa.
C'était la journée dominicale. Elle a été arrêtée par le commissaire provincial de police à Bururi, Dieudonné Maniragaba. Il a conduit Manu Militari dans un cachot de police à Bururi. Depuis lors, elle n'a jamais été auditionnée, ni par un officier de police judiciaire, ni par un magistrat. La famille demande à la police de leur informer les infractions qui lui seraient reprochées. C'est vraiment inquiétant qu'une personne puisse passer 2 semaines en garde à vue sans dossier et sans que la famille soit informée de l'infraction qui fait objet de sa poursuite.
Ses proches indiquent qu'elle a l'air d'être innocente et s'indignent qu'elle n'ait pas été jusqu'ici interrogée ni par un officier de police judiciaire ni par les juges. Ils demandent sa libération.
Nous demandons sa libération parce qu'elle est détenue arbitrairement. Si la police avait des infractions qui pèsent sur la nôtre, elle aurait déjà confectionné son dossier et le transmettre au parquet. Elle aurait été auditionnée, mais jusqu'aujourd'hui, on ne nous a pas encore informé des motifs de sa détention. Ce qui est très inquiétant, c'est le silence radio du commissaire provincial de police.
La rédaction de la radio Inzamba Gatekakawe a essayé de joindre par téléphone le commissaire provincial de la police à Bururi, Dieudonné Maniragaba. Son téléphone sonne, mais personne ne décroche pour répondre à nos appels.
Merci Blaise Nijimbele. Parlons coopération à présent. Clôture ce jeudi de la 4e session de la grande commission mixte Burundi-RD Congo. Cette session qui s'est tenue en République démocratique du Congo rassemblait les équipes diplomatiques des 2 pays voisins. Selon le ministre burundais des Relations extérieures, Albert Shingiro, le Burundi et la RDC se sont mis d'accord sur l'importance de sécuriser leurs frontières communes. Écoutons-le, il s'exprimait sur les ondes de Radio France Internationale.
Nous allons travailler étroitement ensemble pour mettre hors d'état de nuire toutes les forces négatives qui pilulent dans la partie est de la RDC, surtout le sud Kivu, qui est frontalier avec le Burundi. Vous êtes sans ignorer que la partie est de la RDC, il y a des forces négatives, des groupes résiduels qui n'ont pas d'agenda politique. Cette partie état frontalière au Burundi, bien évidemment, nous sommes concernés au premier chef. Nous sommes appelés à travailler ensemble étroitement. S'il faut organiser des patrouilles parallèles ou des opérations conjointe pour mettre hors d'état de nuire ces forces négatives dont les effets affectent négativement la vie de nos populations, nous le ferons de commun accord avec la partie de la RDC.
Sachez que cette session qui avait débuté le 31 août a été organisée dans le cadre des engagements pris par les 2 États lors de la visite du président burundais Evariste Ndayishimiye en République démocratique du Congo. Et dans la page éducation, il y a eu une troisième délibération au lycée communal de Karunyinya de la commune Muruta, c'est dans la province de Kayanza. La séance a eu lieu mercredi dernier à 12 jours de la rentrée des classes pour l'année scolaire 2021-2022 dans les écoles publiques. La décision de procéder à une troisième délibération a été prise par la direction communale de l'enseignement selon des sources sur place. Et pour cause, une plainte concernant la corruption dans l'octroi des points à certains élèves à la fin de l'année scolaire 2020-2021. Beni Axelakana nous en dit plus.
Certains enseignants du lycée communal Karunyinya ont monnayé les points et ont harcelé sexuellement des élèves de cette école. Des sources sur place précisent que ces révélations étaient faites par des élèves qui sont allés se plaindre à la direction de l'éducation en commune Muruta. Ils ont affirmé que certains de leurs camarades avaient avancé de classe sans l'avoir mérité. Au cours d'une enquête menée par la DCE et la direction de l'enseignement en province Kayanza, les enseignants ont eux aussi confirmé les faits. Raison pour laquelle la mesure de procéder à une troisième délibération a été prise, selon une source au sein des enseignants. Pour le moment, l'enquête continue sur les enseignants accusés d'être impliqués dans cette corruption. Nous avons sollicité Nicolas Nzeimana, directeur communal de l'éducation à Muruta, pour qu'il nous donne plus d'éclaircissements sur ce dossier, mais il nous a raccroché au nez. Au sujet de ce même dossier, Eladi Nibidzi, activiste du droit à l'éducation, salue la manière dont il a été traité par les autorités scolaires de Muruta et Kayanza.
Les responsables scolaires sont affectés. Ils peuvent même servir de modèle. Dans les autres écoles, quand les élèves sont en constat de fraude, c'est toujours conseillé et c'est même une exigence de mener une enquête et de clarifier les responsabilités et de sanctionner les responsables. Ce qui reste, c'est de sanctionner et de manière sévère ces professeurs qui sont coupables, mais aussi de rassurer les enfants, de les encourager à toujours être vigilant et dénoncer toute forme de trafic de résultats.
A préciser qu'une situation pareille a été produite au lycée technique communal de Kayanza au cours de l'année scolaire 2019-2020. À l'époque, 4 enseignants avaient été frappés d'une mesure de suspension de 3 mois.
Inzamba.
Radio Inzamba Agathe Kakawe, poursuivons ce journal par cette pénurie du carburant dans la province Rumonge, c'est au sud du pays. Une pénurie dont la conséquence directe est la hausse des prix de transport. Du coup, les usagers, tout comme les chauffeurs des véhicules et des motocyclettes, indiquent qu'ils enregistrent une perte énorme. Le point avec Josine Kazé.
L'effectif des voitures de transport a diminué sur les parkings de Rumonge. Même scénario pour les motocyclistes. La cause n'est autre que la pénurie du carburant dans cette province du sud-ouest du Burundi. Dans la route nationale numéro 3, on croise des motocyclistes qui chargent des bidons vides en direction de la capitale économique, Bujumbura, à la recherche du carburant. Un des chauffeurs de la ville, Rumonge, indique qu'ils éprouvent des difficultés dans la prise en charge de leur famille.
Nous avons déjà stationné nos véhicules car le problème est que le carburant en provenance de Bujumbura s'achète à un prix élevé. Donc se rendre à Bujumbura à la recherche du carburant, on se retrouve dans la perte énorme. Les responsables des stations-service indiquent toujours que le carburant n'est pas disponible. Nous demandons à l'aide du gouvernement pour trouver une solution à ce problème.
Les mêmes informations indiquent que, de retour de Bujumbura, ce carburant est vendu à 70 000 francs burundais, alors que dans des conditions normales, le même bidon de 20 litres ne coûte que 48 500 francs bout. Des chauffeurs, des pêcheurs qui utilisent fréquemment le carburant disent travailler à perte, une difficulté aussi pour les passagers qui, des fois, n'arrivent pas à se déplacer. Des habitants craignent en probable montée des prix d'achat des produits de grande nécessité, surtout que les commerçants d'Olumongue devraient les acheter dans les autres provinces. Des pompistes de différentes stations-service disent qu'ils n'ont pas été servis depuis près de 3 semaines.
Dans la capitale politique Gitega, cela fait 3 jours que le mazout manque dans les pompes des stations-service. Les transporteurs de véhicules qui consomment ce produit affirment que cette pénurie pèse lourdement sur leur travail. Les prix de transport montent en flèche, passant du simple au double dans certains endroits. On fait le point avec Vanessa Moiteka.
Sur plus des 6 stations-service que compte la ville de Gitega, aucune goutte de mazout ne coulait dans ses pompes. Les camions et d'autres véhicules en attente d'être approvisionnés faisaient la queue devant la pompe. Ailleurs, dans les rues de la capitale politique, de simples camionnettes, des camions bennes qui transportent les matériaux de construction jusqu'aux camions remorques, tous y sont stationnés. Face à cette pénurie de ce produit essentiellement utilisé dans le transport de marchandises, on constate une hausse des tarifs. Comme beaucoup l'affirment, les prix de transport pour les marchandises et d'autres objets lourds passent du simple au double dans certains endroits. Une source parmi les consommateurs du mazout nous a révélé que jeudi, l'autorité provinciale a informé qu'une distribution de 30 000 litres était prévue dans une des stations au centre-ville, mais un seul point de vente ne suffisait pas au regard des demandeurs qui ont attendu jusqu'à tard dans la nuit. Les pompistes privilégiaient d'abord les camions remorques qui font le transport dans les pays sous-régionales. Déplore un des chauffeurs qui est rentré sans être servi.
Ce qui nous fait mal, c'est le favoritisme constaté quand il y a peu de carburant disponible. Dans la soirée d'hier, on nous avait informé qu'il y a une station qui va servir à la pompe alors qu'on était en file d'attente. On nous a refusé en nous disant que seuls les transporteurs des camions à l'étranger seront approvisionnés. Et cela n'a pas de sens parce que nous aussi, nous avons un travail qui nous attend. Et nous demandons que ce problème soit résolu dans notre province de Gitega pour qu'on puisse vaquer à notre travail quotidien car les pertes sont énormes.
Les 30 000 litres de ce carburant promis par l'autorité ont vite été distribués à la satisfaction d'une poignée de gens. Le reste s'est contenté des marchés noirs nés pour vendre ce produit à des prix élevés. Des témoins affirment qu'un bidon de 20 litres s'achète à 80 000 francs burundais, alors que le prix officiel ne dépasse pas 48 500 francs burundais.
Nous ne sommes pas parvenus à avoir la réaction de Leonidas Sindaïgaya, le porte-parole du ministère ayant l'énergie dans ses attributions sur la pénurie de ce carburant. Le 19 août dernier, il y a deux semaines donc, dans un point de presse, il avait affirmé que le problème de carburant allait vite trouver une solution. Et très vite, sans transition, les prix des matériaux de construction sont montés du simple au double à Muyinga en l'espace de 3 mois. Nos sources nous indiquent que ces matériaux sont notamment les tôles pour les toitures, les fer à béton, le ciment et autres matériaux indispensables dans la construction. Cette hausse des prix inquiète de plus en plus la population. Le point avec Josephine Jones Ngunziman.
Les prix des matériaux de première nécessité dans le secteur du bâtiment et aux autres ouvrages ont phénoménalement grimpé jusqu'au double en province de Muyinga. Selon nos sources, les fer à béton, le ciment, les tôles ondulées s'acquièrent dans les quincailleries à un coût très onéreux. Le prix d'une longueur fer à béton de 8 cm de diamètre a dépassé 30 000 francs burundais à 50 000 francs. La tôle ondulée qui coûtait 30 000 francs burundais vaut jusqu'aujourd'hui 50 000 francs burundais. Le sac de ciment fabriqué par la société Bousseco coûte entre 32 500 et 35 000 francs burundais et cela en cachette, alors que le prix légalement fixé n'excède pas 24 500 francs. Un sac de ciment Simba fabriqué en Tanzanie et commercialisé en grande quantité est passé de 28 000 francs à 35 000 francs burundais, voire 38 000 francs, dans une période ne dépassant pas 3 mois. Les prix des autres matériaux comme la peinture, les carreaux ont été également revus à la hausse. Les commerçants justifient ces prix par le manque de devises dans le pays. Certaines personnes interrogées par la radio Inzamba par rapport à ces prix demandent à l'administration de réguler ces prix, ne fût-ce que pour le ciment fabriqué localement. Radio Inzamba, nous avons contacté par téléphone le gouverneur de la province de Muyinga, Jean-Claude Barutkonayo, pour connaître le sort réservé aux spéculateurs, mais sans succès.
Et puis le gouvernement du Burundi devrait trouver une solution urgente et adéquate au problème de l'entreprise publique de télécommunication Onatel. Cela afin d'éviter des problèmes, des procès qui pourraient avoir des conséquences néfastes sur les recettes de l'État. C'est l'analyse de l'expert en économie, Faustin Dikumana. Il a dit en se basant sur les différents discours des hautes personnalités du pays en rapport avec la question de l'Onatel qui a des difficultés financières. Et en cas de faillite, c'est le gouvernement qui en sera responsable, selon Faustin Dikumana, que je vous prie d'écouter.
Le gouvernement avait même l'attitude d'utiliser l'expertise, de faire recours à l'expertise de certaines entités spécialisées comme SCEP, l'Agence générale de l'État, pour avoir un remède, une solution idoine pour sauver l'entreprise. On peut se demander cette situation de léthargie, de gangrène, comment elle est allée jusqu'à ce que la situation soit à ce niveau inquiétant. Si on ne fait pas attention, la situation va se compliquer. Si le personnel continue à vaquer à ses fonctions, ce sont les dettes qui continuent à s'alourdir parce que les personnels, les employés ont signé un contrat. Si l'entreprise est toujours fonctionnelle au niveau juridique, ça veut dire qu'elle continue à s'enfoncer, les dettes continuent à s'alourdir. Ce qui peut même générer des procès qui pourront un jour et créer aussi un fardeau au niveau des recettes fiscales de l'État, peut-être dans l'avenir, parce que même des procès à dire pourront être introduits. J'imagine qu'il est de la responsabilité de l'État de prendre des mesures concrètes et immédiates. Sauver l'entreprise, parce que déjà, c'est une entreprise publique qui doit être vraiment sauvée. J'imagine que le gouvernement doit faire tout son possible et prendre des mesures superficielles ou rejeter les responsabilités aux autres, alors que même le gouvernement est responsable à travers le ministre des Cités de cette situation.
Inzamba.
L'accord d'Arusha pour la paix, la réconciliation et la mère des autres lois nationales, selon l'opposant Tassian Sibumana. Il explique que si rien n'est fait dans l'immédiat, cet accord historique risque de voler en éclats, d'autant plus que certaines autorités burundaises ne lui accordent pas la valeur juridique qu'elle mérite. Tassian Sibomana le dit dans le cadre de la campagne pour le rétablissement de l'accord d'Arusha, initiée par le mouvement d'action patriotique MAP Burundi Buhire, dans le cadre de la commémoration du 21e anniversaire de cet accord. Écoutons Tassian Sibomana.
Cet accord revêt une force extrêmement importante aussi longtemps que c'était une entente entre Burundais. Malheureusement, à l'allure vont les choses et ici on y prend en pas garde. L'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi risque de voler en éclats. Et cela transparaît à travers la constitution du 7 juin 2018. Alors, je pourrais le dire sans lambage que cet accord était la mère des autres lois de la République du Burundi, y compris même ce qu'on appelle la loi fondamentale qui est la constitution. Non seulement la classe politique a apposé la signature sur cet accord, mais aussi et surtout l'Assemblée nationale qui agissait au nom du peuple burundais a adopté cet accord et le président de la République d'alors l'a promulgué à travers la loi numéro 1/17 du 1er décembre 2000. Ce qui signifie qu'en définitive, cet accord a été justement voté de façon indirecte et adopté de façon indirecte par le peuple burundais à travers ses représentants que sont les membres de l'Assemblée nationale. La troisième affaire qu'il faut souligner, c'est que les autres lois, comme je le disais, puisaient leur substance dans cet accord. Je pense à la Constitution et bien évidemment, et toutes les autres lois devant s'inspirer de cette Constitution, il en résulte qu'elles devaient respecter scrupuleusement le prescrit de l'accord d'Arusha, parce que même la Constitution s'en inspirait, du moins si on regarde la Constitution du 18 mars 2005. L'autre aspect, c'est que justement, pour motiver, pour viser tout texte de loi, on commençait par vu l'accord d'Arusha. Même pour la Constitution, il était de même, on devait commencer par le visa de l'accord d'Arusha. Et les autres textes également. Mais malheureusement, cela a été carrément oublié avec la Constitution du 7 juin 2018, car ce visa a été complètement élagué, sans oublier les éléments phares de cet accord qui n'ont pas été repris par cette Constitution de 2018. Et ceci pour vous dire que juridiquement, cet accord était la mère des autres lois burundaises, y compris la Constitution. Mais si on n'y prend pas garde, cet accord risque non seulement de ne plus être la loi mère, mais plus grave, cet accord risque de voler en éclats parce que la Constitution de 2018 a déjà montré les couleurs de cette option du système en place.
Et dans le domaine des médias, l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation a changé le contexte politique de l'époque de la signature de cet accord. C'était en 2000, ce qui a permis aux médias burundais d'exercer dans un contexte politique sain. Ce sont les explications du journaliste Antoine Kaburahe, le fondateur du groupe de presse Iwachu. Antoine Kaburahe.
C'était des camps tranchés, retranchés. Et là, ils ont appris à se parler, à partager le pouvoir. C'est ainsi qu'on a vu que le système a permis qu'il y ait un rééquilibrage au niveau de l'armée, de la magistrature, et j'en passe, au niveau de toute l'administration. Et puis, voilà, il y a eu quand même une culture du dialogue, que beaucoup ont salué. Je ne sais pas si vous avez fait un peu attention, les gens qui ont fait Arusha en général sont les politiques les plus ouverts, puisqu'ils ont eu le temps de se confronter les uns aux autres. Les médias, quelque part, nous fonctionnons dans une société, dans un contexte politique. Quand le contexte politique est bon, quand la société est apaisée, notre travail est aussi facilité.
Et voilà, c'est par là que nous mettons un point final à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à la prochaine.